Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ce matin, 9h57 et 12 secondes environ, dans les rues de Tournon-sur-Rhône.
Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien là.
Resserre-moi un verre de ce nectar.
Ah oui, allez. Attends, c'est pas pour ça qu'on est venu. C'est une très bonne idée, Tournon-sur-Rhône, pour la première de l'année. Là, Alex, bien joué.
Quelle première?
On recommence aujourd'hui, enfin.
Mais on recommence quoi?
Par Jupiter, changer le monde, être disruptif,
ah non,
tout ça.
Mais notre quinquennat est terminé, Charlie.
En route pour le septennat, alors.
Non, mais attends, il faudrait pas faire la saison de trop.
Oh, c'est... ça va, c'est pas encore celle-ci. Voilà.
Attends, on a demandé la démission de tout le monde. Castaner, ouais. Démission. Valls, démission.
De Rugy, démission.
Voilà, et on l'a eu. Et même Taubira, démission. À un moment, ce serait cohérent qu'on démissionne, nous. Hein? Et pourquoi pas le faire ici, dans cette région de vin, de soleil.
Justement, c'est symbolique d'être en province, à la campagne pour la première.
Oh, Ermitin, Saint-Joseph.
C'est pas pour ça qu'on est venu. Hein.
Non, mais bon.
Mais si tu veux, on peut inviter un vigneron.
Oui, mais on peut pas juste l'inviter à boire un coup.
Ah, tiens, c'est Guillaume.
Il est au courant, Guillaume.
Attends. Allô, Guillaume, t'es où là?
Je suis au bureau, mais qu'est-ce que vous foutez?
Mais on est à Tournon pour l'émission.
Quoi? Où ça?
À Tournon-sur-Rhône, c'est.
Ah, la ville des pochetrons, là, ouais, je connais, ouais.
Non, mais pas que. Il y a plein de beaux paysages.
Oui, il y a des vignes. Okay,
ouais, des vignes.
Alors, on fait l'émission en direct de France Bleu de Romardèche, là.
Ouais. Hein. Quoi? Ah, ça y est, on s'est fait virer, en fait. On a fait la saison de trop, tout ça.
Ah, Guillaume, ramène-toi.
Allez, viens, Guillaume. On va boire des coups.
Et ça suffit, parce que c'est pas pour ça qu'on est venu. Hein. Allez, en avant la saison 6. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la France bleue de Romardèche. Nous sommes en direct de Valence, dans la Drôme, où on aurait pu faire l'émission sur un rond-point. Mais on a choisi les studios de l'une des filiales de la start-up publique. Et voici les trois thèmes que nous avons emportés dans la région. Donald Trump a réitéré sa menace de taxer les vins français. Les maires de Bordeaux et de Libourne tentent de l'amadouer en lui offrant des bouteilles de grands crus. Et ils répondent quoi, les vignerons français, aux buveurs de coca?
Le vin petit et la cuite mesquite dans le fond, vous méritez pas de boire.
Nous sommes partis en vacances en laissant derrière nous la grève aux urgences. Le gouvernement aussi, parce que quand on est revenu, le problème était toujours là. C'est long, les urgences.
Putain, il y a du monde. Faut que je passe avant tout le monde, excusez-moi. Je suis pas bien, je vais mourir. Non, je passe avant vous. Oui, je sais, mais quoi, vous perdez du sang? Oui, vous saignez de la tête, faites compresse, on s'en fout.
Quelques vignobles se muent en galerie d'art pour accueillir des œuvres. Les artistes s'invitent sur la route des vins pour que vous mettiez un petit peu d'art dans votre nectar.
Enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu.
C'est lui qui a proposé de nous emmener dans la Drôme, et l'Ardèche tout le week-end. Et on a tenu jusqu'à lundi.
Mais oui.
Bonjour et bienvenue, Alex Vizorel.
Mais c'est vous, you are. Are you, Charlie de Vanhoenacker, 6e saison.
Oh là là, et bien tenez-vous bien pour recommencer. J'ai une belle équipe autour de la table, évidemment. À 17h20, celle qui est là pour qu'on prolonge l'été. Vous l'entendez depuis 2 mois, vous imposez des musiques que vous ne supporteriez pas les 10 autres mois de l'année. C'est Mélanie Beur, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de rock et de bière.
Bah très bien. C'est pas mal. À 17h30, celui que les gens de droite adorent détester autant qu'ils détestent l'adorer, c'est Guillaume Meurice.
C'est beau, bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais commencer l'année en vous parlant géopolitique, puisque nous sommes au cœur de la rivalité entre la Drôme et l'Ardèche. Et j'ai parlé de ce drame humain directement avec la population.
Je sais très bien que vous foutez de ma gueule.
Ah, c'est pas sûr, Peut-être, on va voir.
On finit par vous repérer. À 17h40, elle revient du festival d'Angoulême, où elle était jury avec Jacqueline Bisset, pour être ce soir au festival de Tournon sur scène avec Pablo Mira. Ce qui nous rappelle que la vie ne tient qu'à un fil. Rukyata Ouedraogo, bonjour.
Ah, bonjour les amis, quel bonheur et quel plaisir de vous retrouver.
De quoi on va parler?
Alors, tonton Théophras souhaite que Macron renomme une rue de France avec le prénom de son feu. Son père Théophile Ouedraogo, tirailleur sénégalais burkinabé. Donc on va en parler un peu de ça.
Et voici celui qui est venu en voisin. Vous êtes, je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes
Michel Chapoutier.
C'est lui.
C'est lui, il est là.
Oui, agriculteur à Talermitage.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Michel Chapoutier, merci d'être avec nous. Vous dites, oui, agriculteur à Talermitage, et vous êtes un empereur des vins sur les côtes du Rhône. Oh. Ah bah oui, Michel, vous êtes la rosta du vin dans la région. Tout le monde ici connaît votre nom, que ce soit dans la Drôme, dans l'Ardèche, et
faut
même
dire qu'il le met en grand dans les vignes, il y a les grosses
années. C'est ce que j'allais dire. On se balade le long du Rhône, nous on était à Tournon. On voyait teint l'Ermitage de l'autre côté, sur l'autre rive. Sur les coteaux en pente, on voit Chapoutier affiché en grand comme le Hollywood sur les collines. Et alors dites-moi si je me trompe, en 1897, Polydore Chapoutier achète ses premières vignes, fait ses premières vinifications. Vous avez repris. Plus vieux. C'est plus vieux encore?
C'est encore plus vieux.
Ah oui?
Oui, mais il faut savoir que l'origine de la maison, c'est 1808, mais c'était alors la maison Calvé qui est aujourd'hui à Bordeaux.
Alors expliquez-nous ça.
Oui, parce que dans les grands, au 19e siècle, le vin le plus cher de France, alors c'est plus le cas, mais j'espère que ça reviendra quand même, hein, c'était l'Ermitage. Parce que c'était le vin qui se gardait le plus longtemps en France. Et donc une partie de l'Ermitage partait pour ermitager les grands Bordeaux. Et donc, la famille Calvé, qui est d'origine de tel Ermitage, est partie vers Bordeaux en s'associant avec la famille Fogel-Guesan, qui s'est après associée avec la famille Chapoutier.
C'est
comme ça
que
cette entreprise est passée petit à petit.
Ah, d'accord.
Et alors, qui était Polydore, tous les Chapoutiers, mais comme toute la Drôme, ce sont les Ardéchois qui sont descendus. Alors, les Bedeaux, ceux des hauts plateaux, du granit. Hein. D'ailleurs, je profite de dire que France Bleu Drôme Ardèche ne passe pas dans le nord de l'Ardèche. Hein. Alors, il n'y a que Passaïder qui passe.
C'est l'essentiel.
Ah, ça râle,
En régie, c'est cloné, c'est bien en régie.
C'était des familles sur des terrains très pauvres, et lorsqu'ils descendaient, parce qu'on ne faisait pas d'enfants, on faisait des paires de bras, et lorsqu'à 14-15 ans, ils mangeaient plus qu'ils produisaient, on leur disait, allez, hop, descends dans la vallée, tu coûtes trop cher. Et quand ils arrivaient dans la vallée, très vite, ils rentraient dans une ferme, et très vite, ou ils se mariaient avec la fille, ou autrement, ils gagnaient assez de sous pour racheter la ferme. C'est comme ça que la plupart des entreprises de la Drôme sont détenues par des personnes d'origine ardéchoise.
Et voilà. Donc voilà pour l'historique. Mais alors aujourd'hui, vous avez construit quasiment un empire. Il y a combien de bouteilles qui sortent de chez vous? Jusqu'à 9 millions, j'ai lu.
Oui,
vous
entre
êtes vendu dans le monde.
Les années entre 10 et 12 millions. Oui. Ouais.
Par jour. Très
10-12 millions. Ouais, comment est-ce qu'on arrive? Parce que c'est vous qui avez réalisé
non,
ça.
Non, c'est une équipe, hein, c'est pas moi.
Ah ouais, bien sûr. Vous à la tête d'une équipe.
Ouais,
comment
est-ce
qu'on devient un empire du vin?
C'est de motiver les gens, mais bon, j'ai beaucoup de gens passionnés dans l'équipe et surtout beaucoup plus travailleurs que moi.
Vous avez trouvé une astuce que les autres n'avaient pas, peut-être?
Non, simplement la passion. Ouais. Vous allez voir, surtout vos sujets, vous remettez le thème passion, remettre un peu de sens aux choses, et ça simplifie la vie.
Mais comment on réinvente le vin? Parce qu'il y a un peu ce côté, cette belle bouteille qui arrive à table. Ça change, comment ça évolue? Étiquettes, par exemple, en braille, des choses comme ça. C'est des petites
détails. Le braille, c'est Louis Braille, lui, l'idée. Hein. Ouais. Mais c'est Maurice Monnier de la Cizeranne qui a conçu, qui a transformé l'idée de Louis Braille en réalité. C'est une personne de tel Ermitage. Et c'est pour ça que nos étiquettes sont en braille. C'est en l'honneur de ce monsieur qui a mis en place, qui a concrétisé l'idée de Louis Braille. Il a d'ailleurs créé aussi l'association Valentin Way.
Mais c'est aussi dans les petits détails qu'on fait parler de son vin,
dans
l'évolution.
Vous savez, le problème du vin, c'est que le risque, c'est que ça devienne une sorte de snobisme. Et quand vous entendez des personnes qui disent « Ah, mais j'aime bien le vin, hein, mais alors, je ne m'y connais pas. » Alors, j'allais dire, dites-donc, si au niveau de la... Des histoires d'amour, c'était pareil, il fallait s'y connaître, il faudrait être gynéco pour parler d'amour.
Oh, le mec est fort, ça je vais la ressortir.
Le problème du vin, c'est ça, c'est-à-dire, arrêtons de mettre des dogmes. Le monde du
comme
vin est en train de se ghettoiser dans un snobisme suicidaire. Et vous aimez ou vous aimez pas, mais arrêtez de mettre des dogmes. Remettons le vin dans une notion simple. Et vous savez, si on ne veut pas que le vin devienne une boisson de riches et de vieux, de riches du coup de vieux, parce qu'il y a plus de vieux riches, je m'entends. Il faut qu'on mette notre effort à faire des vins aussi d'entrée de gamme.
Vous avez l'impression que les jeunes sont moins consommateurs?
Alors, je pense qu'il y a une évolution de la consommation. Tout à l'heure, vous avez parlé de bière. Parce que les jeunes, la génération soda, elle a eu l'habitude de boire frais avec du gaz. Et donc, aujourd'hui, le vin n'a plus une position de boisson. Le vin n'est plus une boisson, le vin est une culture. C'est-à-dire, je me désaltère avec de l'eau, mais si je veux aller marier le vin avec le mets, là, je vais aller chercher le vin, parce que là, je vais aller chercher un mariage, une complicité. Et c'est très amusant.
Que vous disiez ça, c'est évidemment normal. Quand le ministre Guillaume l'avait dit, ça avait évidemment fait parler. On est aussi obligé de dire qu'avec modération et avec qualité, consommer ce produit. Est-ce qu'il était dans son rôle quand il a dit « le vin n'est pas de l'alcool » ?
Non, il disait que ce n'était pas un alcool. Si vous prenez
comme les autres,
un alcool comme les autres, le vin n'est plus la gourde de Pétain pendant la Première Guerre mondiale où il arrive, il fait passer de 1 litre à 2 litres pour que les mecs complètement... ivre, puisse partir se faire harponner contre les baïonnettes allemandes. Non, non, le vin, il est devenu une culture. Et lorsque l'on va parler vin, il est certain qu'il l'a bu, mais comme tout produit dont on abuse, tout médicament avec un abus est dangereux.
Moins le jus d'orange, on a moins
de
jus
d'orange. Vous remarquerez quand même.
Il y a moins d'accidents de bagnole après.
Pas bon pour le
foie, jus d'orange.
Pas bon pour le foie. Et je vais même vous dire, alors là, avec c'est une boutade réellement scientifique. Vous prenez deux cobayes. Une personne, vous lui faites boire 4 litres de vin, 5 litres de vin. L'autre personne, vous lui faites boire 5 litres d'eau en 3 minutes. Celle qui a bu 5 litres d'eau, elle meurt. Celle qui a bu 5 litres de vin ne meurt pas. C'est pourquoi ?
C'est un bon argument.
C'est à cause de la pression.
Faites-le chez vous. Hein. C'est vraiment une expérience que vous pouvez faire avec votre famille.
On va revenir juste sur ce que disait Didier Guillaume.
J'ai pas entendu pourquoi il meurt pas celui qui meurt.
À cause de la pression osmotique, parce que la densité de l'eau va vous faire exploser vos globules rouges.
D'accord. Eh bien, c'est pertinent. Vous voyez, effectivement.
Oui. Je pense qu'il va falloir.
Bon, c'est un argument loufoque, je le reconnais.
C'est bien
messieurs de l'ANPA, ne m'attaquez pas sur ce sujet.
Il est aussi au Festival d'humour de Tournon avec nous ce soir, Michel Chapoutier, viticulteur et fameux négociant en vin à Tain-l'Hermitage. C'est toujours Djoubaka, notre programmateur musical. Alors, il y a un petit clin d'œil, évidemment. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17.
Amy Winehouse Rehab. Vous êtes sur France Inter. Notre invité, c'est Michel Chapoutier, négociant en vin, viticulteur, passionné, amoureux du vin. Sur sa carte, c'est Wine Grower, Winemaker and Wine Lover. Wow. Tout ça, c'est Michel. Atteint l'Ermitage, bien sûr. Nous sommes en direct de Valence, à France Bleu, Drôme Ardèche, qui nous a gentiment accueillis avec Bastien Chapelle, Ludovic Huguet, merci à eux, et le directeur technique Stéphane Caberlon. Et parce que nous serons ce soir toute l'équipe à Tournon-sur-Rhône pour le festival
des humoristes.
Et comme nous sommes sur France Bleu, Drôme Ardèche, il y a notre camarade Christophe Bernard qui est aux manettes du 17h-19h. Sur France Bleu de Drôme Ardèche en ce moment avec son émission Ça vaut le détour. Est-ce qu'on peut faire un détour par son émission justement? Il est dans le studio d'à côté. Écoutons un peu.
Alexandre, qu'elle a élevé, en passe de devenir médecin, et sa petite fille Margot, une bosseuse de premier choix.
Donc là, c'est une chronique sur un livre.
Et on le voit qui trépigne parce qu'il aurait bien aimé être à l'antenne. On le voit à travers la vitre.
Il n'écoute pas du tout sa chronique.
On salue les collègues, en tout cas.
Voilà. France Bleu Drôme Ardèche, donc, en ce moment, ça vaut le détour, mais surtout, vous écoutez Par Jupiter et autour de la table aujourd'hui pour entourer Michel Chapoutier.
On n'entend pas France Bleu Drôme Ardèche à Saint-Martin de Valamas et au Chélard. Je le rappelle.
Mais on entend France Inter.
Et on n'entend pas France Info non plus. Hein. Que France Inter.
Pas Fleury, c'est la Rocky Atta et Mélanie Bauer.
Voilà, le problème des zones blanches. Hein, on en est là. Hein. Alors, comme vous écoutez France Inter du nord au sud, de l'Ardèche et de la Drôme, vous pouvez écouter le journal qui n'a d'approximatif que de son horaire.
J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne.
Le journal de presque 17h17.
Je déteste le caviar.
Vous avez peut-être une préférence pour le saucisson.
Évidemment, on commence par les titres.
Nous reprenons le chemin du travail alors que l'Amazonie continue de brûler et toujours pas d'annonce d'un don record du côté de Bernard Arnault.
Oui, à croire qu'en matière de vierges, Bernard Arnault est plus ému par les saintes vierges que par les forêts vierges.
En revanche, Londres promet 10 millions de livres pour aider à la reforestation de l'Amazonie.
C'est pas malin d'envoyer des livres parce qu'il va falloir couper plein d'arbres pour le faire.
C'est la rentrée. Justement, la France se pose une grande question. Est-ce qu'il y aura des brèves?
Alors moi je voulais arrêter, mais le public a réclamé.
Alors qui sont ces gens?
Alors sans doute les mêmes qui disent que François Hollande, vous nous manquez. Il y aura donc des brèves. Allez, on se replonge dans l'actualité politique.
Oui, les municipales à Paris. Ouais. Après avoir été candidat à l'investiture, puis avoir jeté l'éponge pour supporter la candidature de Cédric Villani, Mounir Majoubi se rallie finalement à Benjamin Griveaux.
Oulala, Mounir Majoubi qui prend la tête à la première journée du championnat de France de retournage de veste. On attend avec impatience la réaction de Valérie Pécresse et la championne de France en titre, Aurore Berger, qui pensait avoir la voie libre depuis le départ de Manuel Valls, qui a décidé de jouer dans un championnat étranger.
Ségolène Royal, elle a fait une grande annonce.
Ça nous manquait.
Elle n'exclut pas d'être candidate à la présidentielle de 2022, mais pas comme socialiste.
Les ravages de la bipolaritude.
Et d'ajouter, je la cite, ce n'est pas du tout une déclaration de candidature, ce serait d'ailleurs très maladroit de ma part.
Et c'est vrai que ça, c'est pas le style de Ségo, d'être maladroite. Non, elle est surtout mal à gauche, Ségo.
Repassons à droite chez les Républicains.
Cet été, Éric Ciotti a déclaré, ouvrez les guillemets, je suis le seul à pouvoir incarner une alternative politique. Fermez les guillemets.
Et vous faites pas de blagues?
Non, je pense que c'est pas nécessaire d'ajouter du malheur au malheur, Charline.
Une page People. Oui. Le rappeur Maître Gims s'est sauvé d'un bateau en flammes alors qu'il naviguait au large de Bonifacio en Corse.
Oui, c'est fou. Même les bateaux préfèrent s'immoler par le feu qu'écouter chanter Maître Gims. C'est terrible.
Chaleur encore à cause de la sécheresse en Corrèze. 4000 habitants ont dû être alimentés en eau par des camions citernes.
Oui, et selon mes informations, l'eau proviendrait directement de Bretagne où les gens n'utilisent pas cette denrée.
C'est dangereux, Michel Chapoutier. Tout à l'heure. Culture, la Grèce demande au Louvre le prêt d'un morceau de la frise du Parthénon.
Voilà, pour vous donner une idée, c'est comme si vous demandiez poliment au type qui vient de vous piquer votre téléphone si vous pouviez juste le prêter pour appeler votre mère.
Allez, des brèves.
Alors, j'ai gardé le meilleur de l'été pour cette semaine.
Il ne fallait pas vous donner cette peine.
États-Unis, le fugitif se fait débusquer par la police à cause d'un pétrobruyant.
Oui, je confirme.
C'est rigolo, ce qu'on appelle un délit de fuite.
Excusez-moi. Une dernière, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur cette belle lancée.
Non, Seine-Maritime, un homme cambriole un restaurant, boit plusieurs bouteilles et ne retrouve pas le chemin de la sortie, eh bien ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Jean-Vincent Placé.
17h26, atteint l'Ermitage et à Paris et sur France Inter en compagnie de Michel Chapoutier, l'amoureux du vin. On va aborder ce premier thème avec vous justement car Donald Trump, non ça c'est le sujet d'après. Je reprends un petit peu mais
voilà, faut reprendre ses marques.
Donald Trump a de nouveau menacé la France de taxer le vin si nous ne renoncions pas à taxer les GAFA. Or les vignerons français exportent énormément de vin aux États-Unis. problème, donc nos bouteilles de pif vont coûter bonbons aux ricains. Et on en vendra moins, de toute façon, ils n'ont pas la réputation, les Américains, d'être des grands, grands connaisseurs.
Hein. J'écoute. Salade of tomatoes. Et entrecôte bordelaise.
Avec du Coca-Cola.
Oh, oui, Beaujolais nouveau.
Fufu dans l'aile ou la cuisse de Claude Zidi, bien sûr. Alors, c'est un pays où vous exportez beaucoup de vin, les États-Unis, Michel Chapoutier, non ? En plus, vous êtes président d'Inter-Rhône et du Syndicat National des Négociants, l'UM20. Vous êtes directement concerné, donc vous êtes très inquiet de ces menaces de Donald Trump ? Comment vous les ressentez ?
Plus qu'inquiet, parce que c'est le pays, premier pays exportateur, importateur de vin français, mm-hmm. en volume et en valeur. Alors, ça faut insister sur la notion de valeur. Parce qu'il faut savoir que dans le métier du vin, il y a de plus en plus de crises climatologiques. Donc, il y a beaucoup de vignerons qui ont des revenus plus que tendus. Et on a besoin de pays qui sont capables d'acheter les vins de qualité, qui vont dégager la marge pour faire tourner la machine viticole française. Et si on perd, parce que là, on parle de 20%, peut-être 100% sur les vins, c'est-à-dire on perd le marché
100% de taxes.
Oui, il y a des bruits qui courent là-dessus.
Ah, Donald, il est comme ça. Il est entier.
Mais c'est pas faute. On a quand même suivi de loin. C'est pas faute d'avoir prévenu la France sur la taxe GAFA. La France, elle a voulu faire son petit truc tout seul dans son coin au lieu d'avoir la patience d'attendre une coordination au moins européenne. Et surtout, je pense que ce qui a été très, très mal vu, c'est le principe de vouloir faire un rétroactif. Et là-dessus, je pense qu'on ne pouvait passer à travers, mais le côté de vouloir...
En tant que citoyen, vous la comprenez, cette taxe GAFA ? En tant qu'entrepreneur vous-même.
Il y a d'autres pays qui se sont joints d'ailleurs, hein. L'Europe s'organise.
C'est-à-dire que oui, si vous voulez, c'est toujours le même principe. Si vous êtes les seuls benés à payer la taxe et les autres ne la payent pas, vous encouragez quoi ? La fuite vers l'extérieur. Après, résultat qui se passe, c'est que...
Mais les GAFA, ça se décide aussi au niveau européen, donc là c'est toute l'Europe qui...
Ça aurait été intéressant.
Mais les vins français, ça veut dire que c'est symbolique, et que si Trump veut punir même l'Europe, il y a aussi les vins français.
Oui, mais c'est le problème qu'on va avoir dans le vin, c'est que ça va souvent être le vin, c'est comme les Allemands avec leurs voitures. Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas été défendu correctement, et parce qu'il y a eu un principe politique de vouloir tenir tête, alors qu'il suffisait de prendre le temps de discuter avec l'Europe.
Est-ce qu'il faut faire des cadeaux à Google pour que vous puissiez continuer à envoyer du pinard de l'autre côté de l'Atlantique ? Telle est la question du jour.
Vous voyez bien ces entreprises comme... C'est très juste dans la première analyse. Elles mettent leurs bénéfices où elles veulent. Alors, si vous êtes en train de dénoncer le principe qu'elles jouent sur leurs bénéfices en les délocalisant, si vous mettez une taxe que dans un seul pays, vous finalement allez dans le sens de cette
fuite. Oui, mais à l'inverse, si on attend que tous les autres pays se mettent d'accord, il ne se passe rien. Et Google et Facebook, etc., participent. Ça leur sert, quoi. Il est complexe le problème, Michel, attention.
Non,
hein.
Mais je sais.
Ah, parce que là, vous vous êtes dit, je vais voir les rigolos de France Inter, et bam.
Mais je pense que si nos conseillers, tous ces hauts politiques qui pensent, qui essayent de penser de manière la plus positive, mais buvaient un peu plus de vin, ils auraient été un peu plus optimistes. Et je dis souvent, donnez le pouvoir aux vignerons, vous aurez plus de guerre.
Est-ce qu'on est sûr de ça?
Juste après avoir dit que Pétain, il filait de la piquette pour aller au fond.
Michel Chapoutier atteint l'Ermitage, agriculteur, donc viticulteur, négociant en vin. Et la musique aussi, c'est toujours France Inter. Ça adoucit les mœurs, donc pas de guerre, mais faites la musique, Mélanie Boer.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le vin et le rire dans la vie. Il y a aussi la bière et le rock. Et il y a Ride de l'Angleterre, le pays des pop stars, qui les élève dès l'adolescence au pub pour les propulser à peine en âge de boire en tournée tout autour du monde. Ride, quatre garçons d'Oxford à trois quarts d'heure de Londres, dont deux en école d'art qui signent à 19 ans en 1989 sur le label d'Alan McGee Creation Records. Alors, Creation Records, à l'époque, c'est le renouveau du rock anglais, le label des débuts de Jesus and Mary Chain et de Primal Scream. Hein, Alex ?
Je connais bon alors là. Alors là. C'est pour les autres que vous dites.
Mais revenons à Ride. Imaginez-vous, vous êtes rockstar à 18 ans, d'un genre musical qui consiste à jouer de la guitare en regardant ses chaussures, avec vos longs cheveux qui cachent vos beaux yeux bleus pour chanter vos amours brisés par tant de succès, avec tout le romantisme de la jeunesse qui se sait sexy et immortelle. êtes rockstar, vous êtes dans la tendance d'un nouveau son à la mode avec plein de guitares et les voix cachées bien loin dans le mix, le shoegazing. Et puis la mode passe. Et là, c'est le drame. Quand d'autres deviennent des idoles en ne survivant pas à leur jeunesse, vous vieillissez. D'autres stars plus jeunes débarquent avec la Britpop. Vous êtes confit d'alcool et de drogue, vous prenez de la bouteille et vos cheveux vous abandonnent. Vous avez à peine 26 ans et votre carrière est finie. Le dernier album de Ride en 1996 est descendu dans la presse, abominable pour le NMI, encore plus débile que du Lenny Kravitz, disent-ils. Pourtant, c'était pas mal. Hein,
bah nous, on aime bien.
Ouais. Hein. Alors, que faire? Vous avez maintenant, ça fait 3 ans que vous galérez, vous avez maintenant 29 ans, votre gloire est passée. Mark Gardner est alors totalement chauve et part faire du yoga dans la ferme familiale du sud de la France. Quant à Andy Bell, il rejoint l'équipe adverse, hein, le groupe Oasis. Et les années passent, on les croyait finis. Et puis, l'étincelle revient, la petite flamme. 15 ans plus tard, retour de jeunesse, crise de la quarantaine, nostalgie. Et vous retrouvez vos copains comme si rien ne s'était passé. Vous sortez un nouveau disque et puis un deuxième. Entre 1996 et 2016, une nouvelle génération est apparue et a découvert votre son des années 90 avec nostalgie. Le shoegaze, vous êtes devenu culte. Vous avez presque 50 ans et votre carrière repart comme si de rien n'était avec une nouvelle tournée mondiale. L'histoire se répète et vous en faites une chanson. Ride Repetition.
Repetition.
album de Ride est donc sorti le 16 août et il s'appelle « This is not a safe place ».
Merci Mélanie Bauer qui nous a accompagnés jusqu'à Valence où nous sommes en direct de France Bleu Drôme-Ardèche pour France Inter par Jupiter, avec aussi Rukyata, bien sûr Alex Guillaume et notre invité Michel Chapoutier qui est négociant en vin et viticulteur à Tain-l'Hermitage. Quand est-ce que commencent les vendanges, Michel Chapoutier ?
Quand le raisin est mûr.
Et là, ce sera. Non, là, c'est bientôt.
Ah oui, dans la partie sud, les blancs vont commencer à être récoltés probablement dans le courant de la semaine. Puis dans le nord, il faut attendre encore une dizaine de jours. La sécheresse a ralenti un petit peu. Les vignes, elles tirent la langue. Il a fait sec, ouais. Chaud et sec.
Donc si vous êtes sans papier et que vous nous écoutez, peut-être qu'il y a des places à prendre.
On cherche
c'est un petit peu la rentrée chez les vignerons. La rentrée, c'est en fonction aussi du climat et des raisins mûrs, bien sûr. Ouais. Et lui, il est bien, bien mûr. il va entre la Drôme, l'Ardèche, telle une anguille, et ça va être explosif. Guillaume Meurice.
Oui, c'est très émouvant de faire cette première chronique de la saison en direct de France Bleu Drôme-Ardèche. Alors évidemment, pour le côté France Bleu, c'est quand même la station des Chevaliers du Fiel qui sont quand même à France Bleu ce que Robert Ménard est à Sud Radio. Enfin, c'est un petit peu la grande famille des humoristes. Mais c'est aussi émouvant pour le côté Drôme-Ardèche rassemblé, tant ces deux territoires se livrent une guerre fratricide et sans merci depuis des siècles. On a tous en mémoire la terrible bataille de Tain-l'Hermitage et ses combats en poncho à coups de fromage de chèvre. Enfin, une violence vraiment insoutenable. Israël-Palestine, voilà, à côté, c'est la parade Disneyland. Alors, comme vous connaissez ma passion pour la géopolitique, je me suis rendu sur Zone, le marché de Tournon samedi matin, pour essayer de comprendre ce drame qui se joue sous nos yeux et dans le silence, évidemment, de la communauté internationale. On commence avec un premier monsieur qui vient d'où ?
Ardèche. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Drôme ?
Ouais, la pluie vient de là-bas et puis tout ce qui vient de mauvais, ça vient de là-bas.
Ça vient de la Drôme.
Oui, la Drôme. Bah moi, on a mis le Rhône au milieu, en fait.
Ils ont mis le Rhône au milieu, parce que bon, dans la région, on le sait, l'eau est une barrière naturelle. Hein. Sur une table, vous ne trouverez jamais de carafe d'eau dans la région. Si Michel Chapoutier s'était appelé Jean-Jacques Volvic, il n'aurait eu aucune chance dans la région. D'ailleurs, si vous regardez une carte, les deux territoires côte à côte ont la taille du foie de Gérard Depardieu. Coïncidence, je ne pense pas. Alors, retournons sur le terrain et parlons de ce clivage.
Il y a quand même un clivage qui est important, quoi.
D'où ça vient, ce clivage, d'ailleurs ?
Parce qu'on a toujours fait mieux.
Oui, classique. Alors souvent, c'est la jalousie. Hein, c'est le ressentiment qui crée la haine. Je vois quand Charline a perdu contre Alex à la pétanque sur la place du marché vendredi soir. Hein, on pouvait voir dans ses yeux l'envie de lui crever avec des brèves savatées à coups de ivre virgule. C'est humain, mais c'est triste, surtout quand ça fait des dégâts dans les familles.
Je suis né à Tain-l'Hermitage parce qu'il n'y avait pas de maternité à Tournon. Mon père tournonnais m'a dit « Mais toi, t'es pas un vrai Ardéchois, t'es né dans la Drôme ».
Ah ouais,
voilà. C'est dur, très très dur. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de la famille de Yann Moix en ce moment, parce que oui, effectivement, il avait une famille compliquée. Enfin, le petit Yann avait commandé à Noël un costume de Barbie. Il n'avait pas précisé que c'était Klaus Barbie. Ben voilà, on connaît la suite aujourd'hui. Mais ils avaient la chance dans cette famille de pas être moitié drômois, moitié ardéchois, parce que ce sont vraiment deux conceptions du monde totalement différentes. Le métissage n'est pas pour tout de suite, hein, n'est-ce pas, madame ?
Il y a un vrai marquage Drôme-Ardèche, et bizarrement, notamment chez les jeunes.
Ah.
Je connais un petit groupe de jeunes qui est sur le plateau, pas très loin d'ici, et qui a choisi de s'appeler les Caillettes.
Qu'est-ce que c'est les Caillettes ?
C'est de la blette avec de la viande. Et bizarrement, ils s'appellent les Caillettes en disant on est Ardéchois, on est Ardéchois, sauf que la Caillette vient de la Drôme.
Alors là, on a un vrai souci. Hein, c'est comme si l'État islamique s'appelait Côte de Port. C'est compliqué, je veux dire, Michel. Non, mais c'est quand même un groupe à prendre au sérieux. Hein. Le groupe Les Caillettes, c'est des indépendantistes, des radicaux, avec la branche la plus violente, Caillettes Canal Historique. Bon, pour l'instant, le seul truc qu'ils font exploser, c'est leur taux de cholestérol, mais surveillons quand même. Car la violence, elle est là, hein, y compris la violence du langage et des mots doux échangés.
Les ventres jaunes.
Qu'est-ce que c'est les ventres jaunes ?
C'est ceux de la Drôme.
Pourquoi les ventres jaunes ?
Oh, le mangeur de courge, des choses comme ça.
Oh là 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 là, la violence. Alors vous voyez, ça va assez loin dans la dromophobie. Hein. On peut vraiment parler de dromophobie. Alors, les ventres jaunes, c'était le surnom des dromois réputés plus riches, donc toujours avec une petite bourse d'or autour de la taille.
Ouais. Ils mangeaient du maïs surtout.
Ouais, attention, on va enlever la lycra si vous continuez, Michel.
Du maïs.
Alors il y a plusieurs explications, visiblement, d'accord. Mais il y avait quand même ce racisme anti-riche que nous connaissons bien aujourd'hui et qui a coûté le poste de François de Rugy cet été. On pense à toi, petit ange des crustacés, parti trop tôt. Alors, il y a d'autres clivages à l'intérieur du clivage. On l'a dit, il y a l'Ardèche du Nord, l'Ardèche du Sud. L'Ardèche du Nord, il n'y a pas France Bleue. On le rappelle, Michel. Oui, parce que je sais que ça vous tient à cœur, ça, votre combat, ça et les sulfites. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ça va encore plus loin dans le clivage, hein, n'est-ce pas ?
Mais entre deux villages, Colombier-le-Jeune et puis Gillac, c'est protestant, Colombier-le-Jeune c'est catholique. Alors là,
c'est lié à la
ah ouais.
À un point que il y a même eu des histoires où il fallait pas qu'au cimetière l'ombre de projection d'une croix tombe sur une tombe protestante.
On en est là, les gars, on rigole, mais il y a une Saint-Barthélemy qui se prépare, et on rappelle que le Charles IX de la région, c'est Laurent Wauquiez, donc il n'y a aucune raison d'être assuré. Voilà. Alors heureusement, dans toute cette violence, il y a toujours un message de paix, je voulais finir là-dessus, il y a un message d'espoir. Qu'est-ce que cette dame pense des habitants du coin ?
Que des peignants.
Ah, ça c'est encore
que
vrai.
Que des peignants.
Mais des feignants de quel côté, de Rome ou Ardèche ?
Des deux.
Voilà, c'est ça, la France, merde ! C'est là qu'on retrouve notre nation une et indivisible, la détestation universelle, le dégoût des autres. Celui qui continue à tuer partout sur le territoire, mais également à nos frontières, notamment en Méditerranée. Vous voyez, pas besoin d'être chevalier pour faire couler son fiel.
Guillaume Meurice, merci. Vous êtes sur France Inter, malgré tout.
Il faut demander une réaction locale de l'État.
Bien sûr,
Michel. Il y a une petite contre-vérité, quand même.
Ah, chez Guillaume, ça
serait... Ouais.
Non, je ne me permettrai pas de mettre en cause sa bonne foi qui est légendaire. Mais d'abord, la caillette de Chabeuil, je veux bien, mais il y a aussi la caillette de l'Ardèche. Hein, et que la caillette se faisait historiquement dans l'Ardèche, et c'est les gens de l'Ardèche qui sont descendus dans la Drôme, et qui l'ont fait à Chabeuil. Et de toute façon, toute la Drôme était peuplée par l'Ardèche.
Hein, on aurait dû faire un débat contradictoire avec cette dame que j'ai interrogée.
Quand ils disent que les Drômois étaient plus riches, oui, mais les plus riches en Drôme sont les Ardéchois, parce qu'ils étaient plus travailleurs, c'est tout.
Bon, le débat est relancé.
Michel Chapoutier,
on est parti pour 100 ans de
guerre. L'empereur des Côtes-du-Rhône atteint l'Ermitage. Et on va aborder cet autre sujet avant d'écouter Rukyata Ouedraogo, qui nous a accompagnés jusqu'ici aussi. Près de 5 mois plus tard, les urgences étaient donc toujours en grève. La moitié des services d'urgence des hôpitaux publics présentent des postes vacants. En Drôme-Ardèche, 6 centres hospitaliers cherchent encore des urgentistes. Et pourtant, avoir recours aux urgences, ça survient n'importe où tellement vite.
Bref, il était 2h du matin, je regardais un truc marrant en mangeant du poisson. J'ai rigolé, j'ai avalé une arête, ça m'a fait super mal, j'avais du mal à respirer. Je voulais pas mourir, je suis allé aux urgences.
J'ai besoin d'un bilan complet, coax, chimie, yono. On est en train de me perdre là. Allez, on passe au bloc, on y va.
J'ai attendu 20 minutes. Il y avait un mec bourré qui s'était pété l'arcade. Il était bourré parce qu'il arrêtait pas de répéter.
J'ai pas de
morale. Un mec bizarre s'est approché et m'a dit:
j'ai un bébé mort dans le ventre.
Personne s'occupait de moi, ça faisait 45 minutes, je me suis mis à paniquer.
Hey, y'a personne qui s'occupe de moi là ?
Qu'est-ce qui se passe ?
J'ai une arête coincée dans la gorge.
Ok, moi j'ai un enfant de 8 ans qui vient de tomber du 8e étage. On fait quoi ?
Occupez-vous de lui.
Bref, programme court de Kian Kojandi, bien sûr. La situation aux urgences en ce moment, elle est le symbole de la situation de beaucoup, beaucoup de services publics. Et on se dit là, on est dans les départements, on est dans la Drôme et dans l'Ardèche. Est-ce qu'on est encore plus inquiet, les services publics ? Là, on a des exemples presque quotidiens de services publics qui disparaissent. Est-ce que, je sais pas, la maternité dans laquelle vous êtes né, Michel Chapoutier, elle a fermé peut-être ou...
Mais moi, je suis... Ma maman, elle avait peur, comme elle a eu un problème de groupe sanguin, elle est allée à Lyon. Alors, je suis né à Lyon.
Ah bon, oui.
Même si je suis Ardéchois, elle est née à Lyon. Oui. Je suis né à Lyon.
Oui, donc elle n'a pas accouché ici, justement.
Non, mais c'est vrai qu'à tel arbitrage, il y avait une petite maternité. Beaucoup de gens sont nés à la maternité de Tain. Hein. Sur un tournant, c'est vrai, qu'on a entendu tout à l'heure.
Et quand on est entrepreneur comme vous maintenant, et je disais, vous êtes vraiment un empereur du vin ici, est-ce qu'on est encore inquiet des services publics, de leurs difficultés d'accès ? Il y a de moins en moins de trains, c'est de plus en plus compliqué, les connexions.
Donc, France Bleu passe pas partout.
Eh ouais.
Déjà,
c'est quand même un service public.
Mais Google paye pas d'impôts, parce qu'il faut vendre les vins à Michel, alors comment on fait ?
Je vais peut-être en profiter, parce que je voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Saint-Martin-de-Valamas, le Chéla, France Bleu de Romardèche, ça passe pas, quoi.
Ça passe pas.
Et ni France Info.
Ça, c'est fou.
Excusez-moi, j'ai interrompu la question de Charlie. Mais elle a raison. Quel est votre lien, vous, au service public?
Ben, aujourd'hui, on demande au service public, finalement, si on prend juste l'exemple médical, de faire le boulot que les médecins ne font plus. Et pourquoi les médecins... Il y a une partie du boulot que les médecins ne font plus, parce que la sélection sur le numerus clausus, ma sœur était toubibe, donc j'ai bien vu son cursus. Les passionnés, t'es pas bon en maths? T'es passionné, on s'en fout. Donc on veut des bons en maths, la vocation, on s'en fout. Hein. Et ceux qui avaient des vocations parce qu'ils n'étaient pas bons en maths et qu'ils étaient plutôt littéraires, allez-vous promener ailleurs. Et on a fait des personnes qui ont choisi une profession au lieu de choisir un métier. Moi, une profession, ouais. Et ce manque de passion, ce manque de vocation, fait que...
C'est votre vision,
c'est-à-dire, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que... Tout le monde va aux urgences parce que les médecins, il n'y a plus de disponibilité. Ouais. Hein, alors,
pour terminer sur ce sujet, globalement, est-ce que vous, dans la Drôme et l'Ardèche, vous sentez que vous êtes plus asséché en termes de services publics, que c'est plus difficile peut-être
Franchement, en plus, je travaille avec des services en tant qu'élu, hein, comme France Agrimaire, comme l'INAO, où ce sont, dans le monde agricole, où vous avez des personnes qui sont réellement passionnées par ce qu'ils font. Mm-hmm. Hein, mais comme elles sont passionnées, elles râlent moins. Et comme elles râlent moins, bah, on leur en donne plus.
Alors, on a compris votre vision du service public.
Non, mais si vous voulez, on voit
c'est
bien.
C'est une question de râlerie et de passion, grosso modo.
Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur demande beaucoup, et sur le principe de systématiquement dire, j'en remplace un sur deux, et c'est très mathématique, parce que quand je vois les dossiers qu'on a à France Agrimaire, et que je dis, on n'a personne pour le faire, ça prend du retard, vous stressez les gens, et après, c'est mal fait.
Alors, il faut dire, si vous voulez venir à Valence, c'est simple, hein, c'est 2h20 de TGV, là, c'est très bien desservi et on est arrivé ensuite à Tournon où là on a dû prendre une voiture pour arriver à Tournon. Mais voilà, pour ce sujet à 17h48, où Rukyata Ouedraogo nous accompagne. Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, oui. Alors, il s'est passé quelque chose pendant les vacances que je n'ai pas bien compris. Alors, j'ai appelé tonton Théophras qui est pilier de comptoir au maquis Le Sciences Po à Ouagadougou. Allô tonton? Le 15 août dernier, lors des célébrations du 75e anniversaire du débarquement de province, Emmanuel Macron a lancé un appel aux maires de France pour honorer les héros africains de la libération qui longtemps n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. Il a dit quoi, ma fille? Il demande aux maires de France de renommer des rues, des places et des monuments en hommage aux soldats africains de l'armée française qui ont participé à la libération de la France. Ah, ça c'est bien ça. C'est un bon petit gars ce Macron. Ah, ça me fait bien plaisir pour Théophile. Feu, mon cher papa qui a été tirailleur et qui s'est battu avec bravoure pour la France en Indochine. Ah bon? Mais je ne savais pas ça, tonton. Ah si, il m'a raconté comment il avait été héroïquement blessé lors de la bataille de Dien Bien Phu. Son chef, l'adjudant Pienard, avait envoyé les tirailleurs en première ligne et après il a crié « Chargez !» en tirant devant lui avec son pistolet. Et c'est depuis ce jour-là que mon pauvre papa avait un trou de balle dans les fesses. Mais n'importe quoi, t'es sérieux, tonton? Mais je suis dans mon sérieux, ma fille. C'est la stricte vérité. Il faut en parler à la radio parce que si Macron écoute tes chroniques, il va sûrement rébaptiser une rue de Paris, rue Théophile Ouedraogo, 1924-1993, tirailleur sénégalais burkinabé. Et si on peut rajouter une petite inscription sur la plaque, ce serait bien de mettre bon négro qui combattit les Niakoué avec bravoure. Il n'est pas tombé pour la France, mais il a quand même eu chaud au cul. Oh, mais tonton, on ne peut pas écrire ce genre de choses. Et puis d'abord, je crois que Macron parle des Africains qui ont contribué à libérer le territoire national français de l'envahisseur allemand. Il ne parle pas des Africains que la France a envoyés combattre les jeunes de Chinois qui se battaient pour leur liberté contre l'envahisseur français. Ah bon? Et pourquoi? Mais ce sont les mêmes tirailleurs, non? Ils se sont battus avec la même bravoure. Est-ce que moi-même je sais, tonton? Et dis-moi, ma fille, ton président là, il n'est pas en train de réécrire l'histoire avec un crayon dans une main et une gomme dans l'autre? Mais tonton, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça mange pas de pain, ça coûte pas une fortune et ça permet d'entretenir le devoir de mémoire, de rappeler le rôle des Africains dans l'histoire de la France. Ah, ça c'est sûr. Cette générosité-là, ça coûte pas cher. Mais s'il veut vraiment faire quelque chose, ton président, pour l'Afrique, il n'a qu'à expliquer à l'Europe qu'il faut recevoir les réfugiés et étudier leur cas un par un au lieu de les regarder se faire avaler par l'océan. Et puis, il paraît que la Seine-Saint-Denis, le département où échouent les migrants qui ont réussi à passer, reçoit moins d'argent de l'État que la moyenne nationale alors que ses besoins sont plus importants. Il n'a qu'à faire quelque chose pour eux. Non, parce que tous ces gens qui habitent là, ils ne sont pas tombés du ciel, hein. Il y a un lien direct entre colonisation et émigration. C'est bien le devoir de mémoire, mais est-ce que Macron va raconter la totalité de l'histoire? Bon, tonton, écoute, moi je vais raccrocher parce que les gens vont croire que tu utilises ma chronique pour faire passer des messages subversifs. Tu as raison, ma fille, je t'embrasse. Mais souviens-toi d'une chose, quand le lion invite les gazelles à se réunir autour de lui pour les rendre hommage, aucune ne veut s'asseoir au premier rang.
Rukyata Ouedraogo, merci Rukyata, qui sera ce soir sur scène avec tous les chroniqueurs de Par Jupiter à Tournon-sur-Rhône au festival.
Ceux qui ne sont pas malades.
Oui, effectivement. On embrasse Juliette Arnault, qui vraiment, c'est pas de bol. Hein. C'est, on est au milieu des vignes, vous êtes son idole. Et c'est, non, vraiment. Juliette, alors là, on peut prendre 20 secondes pour le dire. Juliette Arnault nous a dit j'ai été éduquée au vin avec les vins de Michel Chapoutier. Et bim, elle est malade, elle n'a pas pu être là. Écoutez, on transmettra vos amitiés à Juliette.
Parce qu'elle a bu trop de vin.
Non.
C'est ça, la boucle est bouclée.
C'est pas vrai. Pour d'abord, le troisième sujet. L'art est-il soluble dans le vin ? Grave que oui. D'ailleurs, dans le Var, les vignerons indépendants exposent des œuvres dans leurs vignobles. Cette initiative s'appelle la Route des vins et des arts et on peut en profiter jusqu'au mois de septembre. Mais veillez à visiter avant d'être bourré. Ouais, écoutez.
Le Ponceur de Rodin, la Vénus de Milou ou encore la célèbre Joconde de Richard de Vinci. On pourra également s'intéresser à des artistes plus modernistes, tels que Miro, le célèbre peintre aveugle.
C'était Faux Contact. Et le comédien Manu Taureau, ce programme court de la RTBF et aussi de Canal Plus Belgique. C'est un article paru dans Nice Matin cet été, intitulé « Quand l'art s'invite dans les domaines viticoles ». Alors, je sais que vous êtes un grand amateur d'art, Michel Chapoutier, que c'est les arts premiers en particulier auxquels vous êtes sensible.
Oui, je crois qu'on a une très très belle collection d'art aborigène, hein, puisque quand j'ai commencé à investir en Australie, parce qu'on a aujourd'hui 5 domaines sur l'Australie, en tant que profane de l'art, voulant bien rester profane, j'ai commencé à visiter les différentes galeries, j'ai pris quelques conseils, et puis j'ai commencé, à l'époque c'était pas connu, hein, c'était pas demandé. Et après, maintenant, dans les bureaux, lorsqu'un collaborateur ou une collaboratrice s'installe, elle choisit un meuble, un tableau, un tapis.
Et est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'exposer de l'art dans l'un de dans un domaine ?
Mais dans tous nos domaines, vous avez de l'art. Mais surtout sur Talermitage, hein, la collection, elle est très importante. Hein, quand les gens vont dans les différentes salles, et de toute façon...
On peut venir visiter chez vous ?
Bien sûr.
Et on demande Michel Chapoutier à Talermitage et bim.
Voilà, c'est à côté de la gare. Et on va faire bientôt, on a ouvert un nouvel hôtel, hein, et on va, qui s'appelle le Faquet Spira, je fais un peu de pub.
Allez, comme si ça suffisait pas.
Et à côté de ça, on va faire à nouveau un caveau dans quelques temps. Et là aussi, on compte faire un musée où mettre l'art local, parce que nous avons eu des grands peintres coin, mais pour défendre l'art local.
Comme par exemple.
La famille de la Cizerane. Max Monnier de la Cizerane était un peintre, mais comme il était riche, il n'avait pas besoin de vendre. Et comme il n'a pas vendu, il n'a pas été connu.
Et est-ce que les marchés de l'art et les marchés du vin sont un peu comparables ? C'est-à-dire qu'il y a des bouteilles qui valent des fortunes, quand on les achète, elles sont plutôt accessibles. Et
vous avez des bouteilles. La différence, c'est que quand vous regardez un tableau, vous ne l'usez pas. quand vous appréciez une bouteille. Oui, mais l'avantage, c'est que quand vous appréciez la bouteille, vous pouvez venir me revoir pour prendre une autre bouteille.
Mais donc, vous êtes connaisseur en vin, mais quand vous achetez un tableau, comme vous disiez, quand vous avez commencé
Quand vous pillez l'Australie, par exemple, faites au hasard les aborigènes.
Non, mais c'est ça. C'est votre goût. C'est à un moment, vous dites, c'est une œuvre qui me parle. Ça, j'ai envie d'investir là-dedans. Comme on dirait d'un vin.
Oui, c'est le côté passion, c'est le côté flash. Après,
C'est pas le côté investissement, c'est ça que je voulais dire.
Ah non, ça c'est... Bah, je suis paysan, hein. je suis pas un spéculateur. Hein.
Michel Chapoutier avec nous depuis France Bleu de Romardèche. Donc, et pour cette première émission de la nouvelle saison, saison 6, on innove. Alex vous propose une nouvelle manière de terminer l'émission.
On s'est dit que voilà, le sketch, on a beaucoup joué avec les invités.
On va continuer
à jouer avec les invités avec un questionnaire de Jupy Proust. Vous connaissez le questionnaire de Proust. C'était à l'époque évidemment avec les préoccupations qui étaient les siennes. On a essayé d'un peu mettre les préoccupations qui étaient les nôtres. On a bien bossé notamment avec Juliette Arnault. On a fait des questions et tous les jours on va en poser quelques-unes comme ça à nos invités pour les découvrir.
Et donc, on peut dire que c'est la seule séquence de l'émission dont les réponses ne sont pas dans les questions.
Sauf si vous soufflez les réponses.
Effectivement,
il peut évidemment dire ce qu'il veut. On tente avec vous, Michel.
On est une équipe, hein, Michel. Voilà. Attention.
Répondez vite, faites-vous plaisir. Sur une échelle de 1 à 10, Michel Chapoutier, vous vous situez de gauche à combien ?
Ça commence fort.
Ça dépend.
C'est une belle séquence.
Ça dépend.
Je vais bien aimer cette séquence.
Ça dépend de quoi ?
Je veux dire... Entre 5 et 7 selon les jours.
Entre 5 et 7 selon les jours. Voilà. Sur une échelle de 0 à 10, combien vous situez de droite, Michel Chapoutier ?
Je dirais, alors, entre 4 et 7, selon les jours.
C'est selon les jours.
Ça dépend de l'humeur.
Quelle figure politique?
Ça dépend, des, ça dépend aussi des taxes qu'on nous annonce.
Et ça dépend d'Emmanuel Macron, qui lui-même hein, ne saurait pas qu'on réponde à ces questions. Quelle figure politique aimeriez-vous croiser sur une plage naturiste? Ah, il est intéressant ça.
Ah, quand on parle politique là tout de suite.
Je les connais pas. Je les connais pas assez.
Ou même non, de non, la mais... région, hein. Mm.
Vous pouvez dire Jean Lassalle, hein, perdez pas un bon client, les filles.
Bon, vous répondez pas.
Avec Sankara, on pourrait.
Alors dis Jean Lassalle, comme ça on prend pas
Jean Lassalle, c'est vrai que ça peut être rigolo, on a l'image. Pour quel dictateur avez-vous un brin d'affection?
Pour quel dictateur?
Vous pouvez répondre votre père, vous pouvez répondre...
Non, moi.
Ah, voilà, ah, ça c'est ça, une réponse c'est à laquelle on ne s'attendait pas. Si c'est pas Mélenchon, la République, c'est qui? C'est important ça.
Non, non, ça ne peut être que Mélenchon. Ah,
eh bien, vous êtes déjà deux à le penser. De quelle artiste féminine auriez-vous aimé être la muse?
Une artiste féminine.
Vous pouvez citer une aborigène.
Non, ah, mais artiste, parce que moi, j'étais toujours troublé par Eve Ruggieri. Et j'étais
amoureux de toujours été
à Eve Ruggieri. Quelle parle de vos vins.
Ça a été pour moi la femme idéale.
Question, quelle est votre astuce pour éviter la mort, Michel Chapoutier? Vous pouvez répondre.
Je pense que je ne suis pas du tout concerné par cette question parce qu'elle saura m'oublier.
Très bien. Une dernière petite dernière pour vous. Quel est votre principal trait de caractère quand vous êtes ivre?
Je suis optimiste.
C'est bien. Il y a deux écoles et vous avez la bonne.
Et toujours de bonne humeur.
Et c'est donc l'antidépresseur.
Alors ma petite blague, on la dit pas?
Alors la poule. La blague de la poule de Michel.
Non, alors la petite. Non, pas la poule. Non, la blague des petits gentils, c'est le papa au moment des.
Allez-y rapidement.
Au mois de décembre, le papa, il dit, mais dis donc, ton carnet de notes, il est où? Il dit, ah ben, papa, je l'ai prêté à. Pourquoi tu l'as prêté à un copain? Et il voulait faire une blague à son père.
On termine l'émission là-dessus. C'est vrai. Michel Chapoutier, merci d'avoir été avec nous. Michel Chapoutier, viticulteur, négociant en vin, atteint l'Ermitage. On va se retrouver demain, bien sûr, les amis. Et comme on va tous mourir à cause du changement climatique, on boira un petit coup là-dessus, bien sûr. Et demain, nous recevrons le chercheur spécialiste dans la théorie de l'effondrement, Pablo Servigne.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce?